We know that Russia has atomic bombs. How much time do we have? Minutes, days, months, years? We don't know. Civil defense is everybody's business. It's your business.
Ans d'histoire. Pendant près d'un demi-siècle, à l'ouest comme à l'est, le monde a vécu dans la peur de la bombe atomique. C'était pendant la guerre froide quand, après avoir été des alliés contre l'Allemagne nazie, les États-Unis et l'URSS ont divisé le monde en deux blocs antagonistes, de part et d'autre de ce que Churchill avait appelé en 1946 le « rideau de fer ». Mais si les deux pays ne se sont jamais vraiment directement affrontés, si leur guerre est restée froide et s'ils n'ont jamais utilisé leurs bombes, ils ont employé tous les moyens de la propagande pour mobiliser l'opinion publique et parmi eux le plus efficace, le cinéma. Pendant plus de 50 ans, à l'ouest comme à l'est, la guerre froide s'est faite aussi dans les salles de cinéma pour le plus grand bonheur des amateurs de films d'espionnage.
Notre organisation ne s'est pas donné la peine de vous faire venir de chez les Russes uniquement pour l'amusement. Numéro 3. Vous êtes toujours à la tête des services secrets de l'Union soviétique.
Oui. Je vais mettre mon plan en marche immédiatement. Et il n'y aura aucun échec.
Bien joué. La guerre froide à Istanbul pourrait se réchauffer et ça ne va sûrement pas tarder.
James Bond, on a réservé une chambre.
Ah oui, monsieur, votre chambre est prête. Numéro 32.
Le 32 pour Monsieur Bond.
J'espère que vous vous plairez ici.
Merci.
Jean-Pierre Bertin-Maguide, bonjour.
Bonjour.
Alors, s'il y a un art qui a profité de la guerre froide, c'est bien le cinéma et notamment le film d'espionnage. À une époque où l'Est et l'Ouest se sont affrontés plus souvent dans les films de fiction que dans la réalité, vous le rappelez dans un livre publié sous votre direction, Une histoire mondiale des cinémas de propagande, un sujet qui n'avait encore jamais été traité de manière exhaustive en France et qui s'en prend à beaucoup d'idées reçues, notamment celle-ci. On dit souvent que seuls les régimes totalitaires ont utilisé le cinéma à des fins de propagande. Or, vous rappelez que ce cinéma de propagande, il a été inventé par les États-Unis presque en même temps que le cinéma, c'était au 19e siècle, Jean-Pierre Bertin-Maguide.
En effet, mais cette idée reçue est contemporaine, en fait, de la guerre froide. C'est-à-dire qu'en 1945, l'opinion publique, les pouvoirs dans les démocraties en Europe et aux États-Unis considèrent que la propagande est négative en prenant l'exemple du nazisme. Et donc, l'idée reçue, c'est que la propagande est liée symboliquement au régime totalitaire, qu'elle est mensongère et qu'elle est diffusée sur des peuples qui n'ont aucune réflexion. Mmh. Voilà. Mais effectivement, c'est dès 1898, avec le conflit hispano-américain, que les journaux d'actualité américains vont envoyer des reporters pour essayer de filmer les combats et inventer les premières techniques de propagande.
Alors, bien entendu, ça, c'était avant la Révolution russe. Elle-même va s'emparer du cinéma à des fins de propagande. C'est Lénine qui disait du cinéma le plus important de tous les arts. Et effectivement, les Lénine, Staline plus tard, s'en serviront pour du régime.
Bien sûr, mais y compris pendant le premier conflit mondial où on a tous les belligérants qui vont utiliser la propagande et notamment à travers les actualités. Bon, on va le retrouver au moment de la crise économique aux États-Unis. On le retrouve à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous les pays, là encore, belligérants utilisent la propagande.
En URSS, on verra même Staline commander littéralement à Eisenstein des films exaltant le patriotisme des Russes. C'était pour, dans la lutte qu'ils mènent contre les Allemands. Mais avec Ivan Terrible,
absolument. C'est-à-dire que ce sont des films qui mettent en avant surtout le culte du chef et qui présentent Staline comme le sauveur face à la menace du nazisme.
Alors là, c'est facile en URSS, puisque le cinéma est un cinéma d'État. En revanche, ce n'est pas le cas aux États-Unis, où il s'agit d'une industrie privée. Cela dit, elle est avant même la Deuxième Guerre mondiale, placé étroitement sous le contrôle du Congrès, il y a un organisme qui a joué un grand rôle dans la propagande, dans le film de propagande aux États-Unis, c'est The House of American Activity, Un-American Activities Committee, le comité des activités anti-américaines, qui a été créé en 1938. Et là, il s'agissait de lutter, notamment dans le milieu du cinéma, contre tout ce qui pouvait paraître être d'origine étrangère, nuire aux intérêts des États-Unis.
Jean-Pierre Bertrand Maguitte. Oui, tout à fait, mais je remonterai quand même à 1922 pour montrer que le cinéma américain est quand même très encadré, parce qu'en 1922 est créé les MPPDA, qui est l'Organisation de défense professionnelle et de défense de l'image de la profession du cinéma, et qui se fait l'écho de toutes les réactions, de toutes les critiques, de toutes les protestations qui peuvent être émises contre le cinéma par les lobbies ou par les organisations instituées. Et c'est dans ce cadre-là que va être mis en place notamment le code moral Hays en 1930. Bon, il faut aussi revenir sur tous les 250 bills qui ont été votés par les différents États entre 1925 et 1940. Et enfin, effectivement, 1938, la création de ce comité d'action anti-américaine, en fait, qui avait été créé pour lutter, pour enquêter sur des activités idéologiques étrangères, mais qui très rapidement se concentre sur la lutte contre les communistes, la chasse aux sorcières.
C'est ce qui se passe effectivement au lendemain de la guerre, au début de la guerre froide, lorsqu'en 1947, ce comité convoque un certain nombre de réalisateurs et d'acteurs pour leur demander quels sont les sentiments que leur inspire le communisme. C'est même à Hollywood que commence, vous le disiez à l'instant, ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières. Certains l'ont accepté, d'autres non.
Avez-vous déjà noté de la propagande communiste dans un scénario ? Gary Cooper. J'ai refusé plusieurs scénarios parce que je les croyais teintés d'idées communistes. Ils n'ont pas tenté de m'engager parce qu'ils savent que je n'ai pas de sympathie pour le communisme. Robert Taylor. S'ils ne tenaient qu'à moi, on les renverrait tous en Russie ou dans un autre endroit aussi désagréable. John Lawson, êtes-vous membre ou avez-vous déjà été membre du Parti communiste ? Il est malheureux que je doive enseigner à ce comité les bases de l'américanisme. Là n'est pas la question. Avez-vous déjà été membre du Parti communiste ? Je vous ai dit que je révélerai mes convictions au public américain. Il connaîtra ma position, qui est celle que j'ai exprimée dans mes écrits. Retirez-vous de la barre. I got a red hot tip for you, Joe. See that guy with the red suspenders driving that car with the bright red fenders. I know he's one of those heavy spenders. Get that communist Joe. He's filling my gal with propaganda, and I'm scared she will meander. Don't wanna take a chance that he'll land her. Get that communist Joe. Get that communist Joe. Get that communist Joe.
Get That Communist Joe attrape ce communiste Joe. Joe, c'est évidemment Joseph McCarthy, l'instigateur de cette chasse aux sorcières, qui a décimé le milieu du cinéma dès 1947, lorsque on a commencé à auditionner des acteurs, des réalisateurs, soupçonnés plus ou moins d'avoir des sympathies communistes, Jean-Pierre Bertrand-Maguitte.
Oui, et puis c'est surtout à partir de 1950, c'est-à-dire lorsque McCarthy dénonce l'infiltration communiste à travers l'enseignement, les médias.
L'administration. Et donc, c'est
l'administration.
Et le cinéma aussi.
Et les médias, et évidemment le cinéma.
Alors là, il y en a beaucoup qui vont souffrir. Il y en a qui résistent, on l'a entendu. John Lawson fait partie des 10 qui ont refusé de répondre à cette commission, considérant que ces questions étaient indignes. Il y a des réalisateurs comme Joe Dassin, Joseph Losey, Charlie Chaplin qui vont s'en aller. Il est vrai qu'à cette époque, Jules Dassin, pardon, et il est vrai qu'à cette époque, on a peur de l'URSS, ou en tout cas, cette commission inspire la peur de l'Union soviétique, Jean-Pierre Bertrand-Maguitte, et du communisme.
Oui,
en général.
Effectivement, c'est-à-dire que cette commission très vite dérive. Au lieu de pourchasser les quelques communistes qui peuvent effectivement exister, et surtout avant la Seconde Guerre mondiale, s'attaque systématiquement au milieu intellectuel et du cinéma. Et donc, va entraîner, si vous voulez, dans l'opinion publique, une véritable angoisse, hantise de l'Union soviétique, une véritable paranoïa qui s'installe, n'est-ce pas, aux États-Unis, et entraîner des mouvements extrêmement violents contre ce comité.
Oui, mais en même temps, c'est vrai que 1947, c'est le début de la guerre froide. 1949, la Chine, à son tour, devient communiste. L'URSS a la bombe atomique. Et en 1950, c'est la guerre de Corée. Donc, un contexte plutôt favorable à l'apparition de films qui sont littéralement des films de propagande, des films de fiction et même de science-fiction, lorsque le communisme est comparé à une invasion d'extraterrestres venus d'une planète aussi rouge que le drapeau soviétique.
Les Martiens avaient préparé leur descente sur la Terre avec une subtilité, une perfection étonnante. En plus de leurs engins cylindriques venus des mystérieuses profondeurs de l'espace, leurs machines de guerre, terrifiantes en leur puissance et leur complexité, déchaînèrent une vague d'épouvante qui déferla sur tous les points du globe.
Il doit y avoir des gens dedans.
Qui ? D'où crois-tu qu'ils viendraient ?
Est-ce que je sais ? J'ai lu quelque part que Mars était près de la Terre en ce moment. Peut-être de Mars.
Ce n'est pas sûr que ce soit des hommes comme nous.
Les habitants des autres planètes ne nous ressemblent pas forcément.
Dans tous les pays, les états-majors cherchaient fébrilement les moyens de coordonner leur système de défense avec ceux des autres nations.
Il n'y a qu'une arme qui arrêtera les Martiens. La Maison Blanche vous confirmera l'ordre d'utiliser la bombe atomique.
Attention, abritez-vous.
Heads up, America, let's stand prepared with our defenses high. Heads up, America, a land that is prepared can never die.
Heads up, America, a land that is prepared can never die. Tiens, bon, l'Amérique, un pays qui est préparé et ne peut pas mourir. Ça correspond un peu, c'est une chanson de cette époque de la guerre froide et de ce film dont on a entendu un extrait, film de science-fiction, comme il y en a eu beaucoup d'autres, et qui comparait, bien entendu, l'URSS, le communisme, à une invasion venue de la planète Mars. La science-fiction, ça a été un des principaux types de cinéma, de propagande, justement, contre le communisme, Jean-Pierre Bertrand-Maguitte.
Oui, tout à fait. Il y avait deux types de films à cette époque-là. Il y avait le film véritablement de divertissement, on avait les westerns, les comédies musicales, et on utilisait des procédés comme le cinémascope et la couleur, hein, avec des films comme La Tunique. Et puis, donc, c'est des films qui divertissaient directement pour entretenir le moral. Et puis, il y avait alors ceux qui étaient directement, qui se faisaient l'écho de l'angoisse de la société américaine. Et effectivement, dans cette catégorie-là, le film de science-fiction a été le plus utilisé. C'est le deuxième âge d'or du film de science-fiction, le premier étant celui de la crise de 1929, hein, où on a vu les Frankenstein, les Dracula, etc. Et là, il va y avoir effectivement toute une série de films qui reprennent les idées qui sont diffusées dans la société, c'est-à-dire l'idée du complot, hein, avec l'invasion des profanateurs de sépultures, l'idée de la mutation suite à une irradiation, les monstres attaquent la ville, et puis effectivement les combats avec l'allégorie, n'est-ce pas, martien URSS, avec des films comme Le Choc des mondes, Invasion USA, et puis La Guerre des mondes.
Assez subtil, parce que jamais on ne parle de l'URSS.
Mais pas du tout. Alors c'est très intéressant, parce que l'allégorie va jusqu'au bout, c'est-à-dire que les martiens ont la peau rouge. Là, lorsqu'on cite les différents pays qui sont attaqués et qui vont s'unir pour lutter contre les martiens, l'URSS n'est absolument pas cité. Et même lorsqu'on montre une carte, n'est-ce pas, la caméra très, très subrepticement balaye la carte, mais évite l'URSS. Donc l'URSS n'est pas présente, ce qui veut dire effectivement que c'est l'ennemi. Bien sûr. Et on va aussi le déplacement des soldats qui luttent contre les martiens, à l'image, se fait toujours de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est. Bon, et enfin, autre exemple, l'œil périscopique qui est mis sur cette espèce de nombril là, des machines martiennes, pénètre à l'intérieur de la ferme où les héros se sont réfugiés. Et donc, on voit bien cette allégorie, c'est le communisme menace même le cœur des foyers américains.
Mais heureusement, il y a la bombe. Alors on justifie donc l'arme nucléaire qui pourtant faisait peur elle-même, mais maintenant c'est un instrument de défense.
Oui, mais dans ce film-là, justement, les institutions, le gouvernement n'arrive pas à lutter contre les martiens. C'est évidemment le professeur Forrester qui est le héros du film, parce que ces films proposent aussi des modes de comportement à reprendre en cas de crise, n'est-ce pas ? Et donc, il faut que le public s'identifie à ces héros. Et celui-là, il a la connaissance, il a le sens de l'initiative, et il peut lutter, il peut venir en aide, n'est-ce pas, à l'institution gouvernementale. Mais c'est surtout Dieu. C'est surtout Dieu dans le film qui, parce que, évidemment, ce sont les bactéries qui réussissent à détruire les martiens, et les bactéries sont des créations de Dieu. Et le film se termine, n'est-ce pas, avec le couple qui se forme, Forrester et Sylvia, sur des chants religieux et de sons de l'Église, et Forrester disant « Nous attendions un miracle ».
Alors, films de science-fiction qui sont des films de propagande, mais de son côté, l'URSS n'est pas en reste. Le cinéma soviétique est là pour placer Staline sur un piédestal.
Puis-je vous embrasser, camarade Staline, en remerciement de tout ce que vous avez fait pour nous. Vive Staline !
Vive Staline !
Vive Staline !
Мира и счастья всем вам, друзья мои.
Paix et bonheur pour vous tous, mes amis. Aujourd'hui est un grand jour. Nous fêtons l'anniversaire du cher camarade Staline. Si tu chantes le bonheur, si tu suis un chemin difficile, sache que tu n'es pas seul, mais deux.
Cantata a Staline, musica compositora Alexandrova.
Dans ce mot, il y a force, santé, bonheur. De la terre jusqu'au soleil, au-dessus de la gloire de notre peuple, ce mot s'élève comme l'arc-en-ciel aux sept bandes. Ce mot, ce grand mot, c'est Staline, âme, chair et sang du peuple.
« Alors si le cinéma américain fait de la propagande, le cinéma soviétique, on vient de l'entendre, n'est pas en reste, mais il le fait sur un autre registre, Jean-Pierre Bertin-Maguitte. Il s'agit moins de stigmatiser les États-Unis que d'encenser Staline. C'est le culte de la personnalité.
Tout à fait, on est dans le second stalinisme et effectivement, il y a un durcissement idéologique très fort et on a toute une série le discours de propagande et celui de l'URSS comme image idéale, l'URSS victorieuse du nazisme, défendre le cinéma nationaliste en reprenant les grandes victoires du passé, et puis effectivement le culte de Staline.
Alors comment expliquer qu'on épure, on fait de l'épuration, il y a aussi Chasse aux sorcières, notamment c'est Eisenstein, l'homme auquel Staline avait fait appel dans les années 30 et pendant la guerre, pour encenser l'URSS, qui est mis à l'écart du cinéma soviétique.
Eh bien oui, tout simplement parce que nous avons à cette époque-là tout ce qui ne va pas directement défendre le culte de Staline est censuré. Et effectivement, la première partie d'Ivan le Terrible est tout à fait conforme au régime puisqu'il s'appuie sur le peuple pour combattre le complot des boyards. Mais la deuxième partie, nous avons un personnage qui est victime de son pouvoir, qui commence à avoir des doutes et qui est menacé de folie. Donc tout cela, évidemment, peut être lu comme un échec, une attaque, n'est-ce pas, du dictateur. Et donc, effectivement, il est interdit. Bon, comme seront interdits aussi un film de Loukov, Une grande vie, ou un film de Poudovkine. C'est-à-dire qu'on est vraiment... dans l'optique de défendre le culte de la personnalité.
Mais alors, pas seulement en URSS. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'il montre à cette époque-là plusieurs cinémas. Il évoque notamment un cinéma français d'inspiration communiste qui, lui aussi, va faire des films dont l'un s'appelle « Vive Staline » en 1949, « L'homme que nous aimons le plus », un film avec un commentaire de Paul Éluard, des films très américains. Il y a un cinéma français qui d'ailleurs a beaucoup de sympathisants, qui compte beaucoup de sympathisants de l'URSS, des compagnons de route qui sont cités dans votre livre. Il y a les réalisateurs Louis Daquin, Jean-Paul Chanois, les critiques Georges Sadoul ou Léon Moussinac, Claude-Autant Lara également, Simone Signoret, Yves Montand, Gérard Philippe. Et c'est vrai que ce cinéma, alors vous le rappelez aussi dans ce livre, enfin il est rappelé par la personne qui s'occupe de ce chapitre, il est censuré en France rapidement.
Ah oui, alors il y a un contexte dont il faut parler, c'est-à-dire qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, c'est la CGT, le Parti communiste, qui ressortent vainqueurs de l'occupation et qui sont complètement majoritaires, notamment dans le milieu du cinéma. Et donc, on réfléchit à toute une mise en place, n'est-ce pas, économique d'une nouvelle société qui pourrait s'appuyer sur les coopératives, etc., etc. Donc il y a énormément de sympathisants communistes. Et effectivement, en 1947, il y a une fracture, une rupture, parce que les communistes quittent le gouvernement. Et à ce moment-là, évidemment, le cinéma va se trouver tout à fait...
sous contrôle.
Sous contrôle, enfin, de sa... comment dirais-je, des communistes, et il va y avoir des manifestations de la profession, des acteurs, des réalisateurs. Alors, c'est vrai que le Parti communiste réalise lui-même des films, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas les diffuser parce qu'il y a une censure extrêmement forte qui interdit tout film sur, par exemple, la guerre d'Algérie, tout film sur qui ne serait pas dans l'optique du régime.
Tandis qu'aux États-Unis, le comité des activités anti-américaines continue d'agir en produisant en 1960 un film présenté comme un film documentaire anticommuniste, aujourd'hui totalement oublié, Opération Abolition.
The Communist Party has given top priority to Operation Abolition and has assigned agents trained in propaganda.
Le Parti communiste a donné sa priorité à Opération Abolition. Il a entraîné des agents pour sa propagande.
were taken by...
Les scènes que vous allez voir ont été prises par des reporters pendant les auditions du Comité des activités anti-américaines à San Francisco, en Californie, les 12, 13 et 14 mai 1960. Ces scènes montrent la vieille tactique communiste classique qui permet à des agents communistes relativement bien entraînés d'inciter, de manipuler des sympathisants non communistes pour accomplir le sale boulot du Parti communiste.
This is City Hall in San Francisco, the site of hearings held by the House Committee on Un-American Activities in May of 1960.
Get in the box and shut your mouth, I'm shipping you far away. There's a book inside on Kodiak dances and a comic flag to wave. You say we when you mean me, so Reckonred will let you stay. Inside of a year you'll be premier, cause you're seeing things their way. To Russia with care, the address reads, they're needing propaganda like you. A talking machine, a spouting pretty dreams that never, never do come true. I'm shipping you by air to Russia with care, you don't fit the USA. Gal, I've had it, now Moscow gets it, go turn all the red hair gray.
Get in the box and shut your mouth, rentre dans le paquet et tais-toi, je t'envoie... En Russie, hein, au bon soin de la Russie, c'est une chanson de 67, à une époque où quand même le film de propagande finit par s'épuiser en quelque sorte, et notamment ce film Opération Abolition a finalement joué contre cette propagande anticommuniste qu'il voulait développer. C'est un film qu'on a complètement oublié aujourd'hui, Jean-Pierre Bertin-Maguitte, mais auquel votre livre consacre tout un chapitre.
Oui, effectivement, c'est un film qui a été commandité donc par le comité lui-même et qui fait allusion aux enquêtes menées le 12, 13, 14 mai 1960 dans le City Hall de San Francisco et qui a pour objectif de montrer que la révolte des étudiants qui est présentée est manipulée par le Parti communiste. Et en fait, ce film a suscité énormément de réactions violentes pour et contre, tout simplement parce qu'il y a un décalage entre ce que montrent les images et le discours de la bande-son. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui est répétitif, où le député que vous avez entendu, Francis Walter, nous dit, bon, c'est les communistes qui sont à l'origine de ces manifestations d'étudiants, mais l'image nous montre, au contraire, des étudiants qui adoptent une résistance passive, qui se laissent traîner à l'extérieur du City Hall. Et donc, tout ce discours qui victimise notamment la police, on ne le voit pas à l'image. Et donc, on s'aperçoit très rapidement qu'il y a une lecture qui peut être faite et qui, évidemment, s'appuie sur la manipulation trop grossière qui est faite dans ce film et qui va donc aller à l'encontre du comité et à partir de là, voir la fin de son action.
Dans un pays où le cinéma, nous sommes, la guerre du Vietnam va commencer, on verra plutôt des films hostiles à la guerre du Vietnam, ces films sur la guerre du Vietnam, à part le film Les Bérets Verts, et peut-être aussi la concurrence de la télévision qui fera disparaître le film de propagande de Jean-Pierre Bertin-Maguitte.
Bien oui, parce que cette époque de la guerre froide est très intéressante parce que c'est la dernière grande époque où le cinéma est le premier instrument de propagande par l'image. Et ensuite, il va être, à partir de la fin des années 60 et début des années 70, relayé par la télévision qui, elle, va entrer dans les foyers, donc sera encore plus efficace.
Merci Jean-Pierre Bertin-Maguitte. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre que vous avez dirigé, Une histoire mondiale des cinémas de propagande, publié chez Nouveau Monde Éditions et accompagné d'un DVD. À lire également Films et histoires de Jérôme Bamnet et chez Armand Collin, Cinéma et régime autoritaire au XXe siècle, dirigé par Raphaël Muller et Thomas Vider aux Presses universitaires de France. Enfin, je signale l'apparition du livre Le Tout Ciné, dirigé par Laurent Delmas, une coédition L'Archipel et France Inter. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Bon baiser de Russie de Terence Young, disponible en DVD chez MGM. La guerre des mondes de Byron Haskins, édité en DVD chez Paramount Pictures. Et Opération Abolition, un film de propagande américain présenté par Francis Walter. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sophie Moreno, Patrick Henry, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Frédéric Martin et Franck Olivard. Et à notre réalisatrice Anne Kobilac.